Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, 8 minutes de silence et de colère ce matin à Marseille. Un an après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, hommage aux 8 morts dans les décombres. Et la rage toujours contre les politiques accusés de ne rien faire contre le logement indigne.
Personne n'a démissionné, alors que parmi les personnes qui sont aux décisions, il y a des propriétaires de Tony. C'est un scandale, il faut que tout ça, ça passe en justice et vite.
Un reportage Olivier Martoc et nous verrons que l'enquête n'a pas livré beaucoup d'informations à ce stade. Quels sont les projets du gouvernement en matière d'immigration? Pour l'économie, une liste plus précise, régulièrement mise à jour des métiers qui manquent de main-d'œuvre. On ouvre un peu les vannes. Pour les sans-papiers et demandeurs d'asile, on restreint un peu l'accès aux soins. Au final, ligne de fermeté ou d'ouverture, vous entendrez l'analyse de Yaël Goz. Après le Goncourt et le Renaudot, le prix Fémina pour Sylvain Prudhomme, Par les routes, s'est édité chez Gallimard. Ilana Mor-Youssef approuve ce choix, vous l'entendrez tout à l'heure. Dans ce journal, encore une plaie de plus dans le sud de l'Italie. Une aciérie et ses 8000 salariés menacés de fermeture. Un pas de plus vers le retrait américain de l'accord sur le climat. Qu'est-ce que cela change? Nous en parlons avec l'invité du journal de 13h, l'avocat Arnaud Gossement. La chronique santé de Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
Manger 5 fruits et légumes par jour, mais aussi des légumineuses.
Des lentilles, des pois cassés, des haricots rouges ou blancs. Inviter les protéines végétales à sa table, c'est préserver sa santé et l'environnement, disent les chercheurs de l'INRA.
A tout à l'heure pour les détails. 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Et le niveau monte.
Oui, une étude qui montre qu'avec la hausse du niveau de la mer, ce sont des centaines de millions de personnes qui devront être déplacées et qui vont subir des inondations régulières. La France n'est pas épargnée, comme on le verra avec mon invité, le chercheur Stéphane Costa.
Question au 01 45 24 7000. Tout de suite, l'émission à 13h30. Nous prendrons nous aussi la mer avant cela avec le départ de la course Brest-Atlantique. Des voiliers géants, des marins de grande classe, du spectacle en perspective. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Il y a un an, cette chose inouïe se produisait. Deux immeubles s'effondrent en plein centre d'une des plus grandes villes de France. 63-65 rue d'Aubagne à Marseille, à deux pas du Vieux-Port. Les secouristes feront tomber un troisième immeuble qui menaçait de s'effondrer lui aussi. C'était à 9h05, il y a un an exactement, dans les décombres, 8 morts. Un an après, toujours un gouffre béant à la place des immeubles. Et ce matin, l'hommage aux victimes. Reportage Olivier Martoc.
Soudain, dans ce quartier populaire et bruyant, le silence a été total. Rythmé par la cloche de l'église du quartier. Après 8 minutes, applaudissements et puis cette émotion partout qui perce, elle n'est pas feinte.
C'est une vraie souffrance pour nous tous, en tous les cas. Il y a des morts. C'était pas la fatalité, c'est ce qui me met le plus en colère, en tous les cas. On aurait un peu écouté les gens, un peu écouté les experts. Faut plus que ça se reproduise dans cette ville. Et on aurait mieux. Mais bon.
De l'émotion, mais aussi une rage sourde, prégnante, qui éclate quand Samia Ghali, la sénatrice PS des quartiers nord, fait son apparition et que caméras et appareils photos se braquent sur elle.
On les entend pas et aujourd'hui, là, ils profitent de cette manifestation où nous, on est comme des cons. Il y a toute la presse qui est autour d'eux et en fait, c'est eux qui ont la vedette. Merde, non ! Ras-le-bol, on est au-delà de l'émotion, là, par rapport à une ville qui s'effondre avec des politiques publiques qui sont absentes. Non seulement absentes, mais criminelles par leur absence, quoi. Leur gestion. Donc là, maintenant, on est au-delà de l'émotion, quoi. Ça suffit. Alors, eux, ils sont émus, là, les élus, quand ils viennent. C'est obscène, quoi. Vraiment, c'est obscène.
L'agressivité n'a été que verbale. La petite foule s'est dispersée rapidement. Un nouveau rendez-vous est fixé ce soir pour rebaptiser symboliquement ce lieu, place du 5 novembre. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Et depuis ce 5 novembre 2018, la mairie est violemment mise en cause. Marseille représente 10% de l'habitat indigne en France. Ce sont souvent des petites copropriétés, ce qui ne facilite pas l'action des pouvoirs publics. Jean-Claude Gaudin n'était pas à la cérémonie d'hommage ce matin, vous l'avez entendu, rue d'Aubagne. Il est resté dans sa mairie. L'année dernière, c'est tout un quartier qui avait été évacué autour des immeubles effondrés. 3500 personnes, seulement 1000 ont retrouvé un logement pérenne depuis. Et l'enquête sur l'effondrement, proprement dit, où en est-elle? Laurent Grollet.
L'enquête diligentée il y a un an va effectivement encore prendre du temps et les conclusions des trois juges missionnés pour faire toute la lumière sur cette catastrophe ne pourront pas être rendues avant le 30 mars prochain. Pourquoi ? Parce que c'est la date à laquelle un premier rapport d'expertise sera dévoilé. Autrement dit, il faudra encore s'armer de patience avant de connaître la vérité sur l'effondrement de ces trois immeubles. Il y a quelques jours encore, les familles de victimes et autres associations qui luttent pour connaître la vérité ont été reçues par les juges. et n'ont pas plus d'explication. Au lendemain des effondrements, on se souvient de ces perquisitions opérées au siège du service de l'urbanisme de la ville, ainsi qu'au siège de Marseille Habitat, le bailleur social. Car un an après, c'est toujours cette question qui hante les victimes et une grande partie des habitants de la ville. Lequel des numéros 63 propriétés de la ville ou du 65 immeuble privé a entraîné la chute de l'autre? C'est de cette conclusion que découleront des procédures d'indemnisation qui s'annoncent elles aussi assez longues.
Un an après, quelles mesures contre les logements insalubres en France? C'est un podcast que vous propose France Inter, podcast qui s'appelle Poursuite, à écouter sur franceinter.fr et les plateformes de podcast. Et cette histoire, c'est d'abord celle de locataires qui vivent dans des conditions indignes, mais aussi de petits propriétaires qui ne veulent pas ou ne peuvent pas entretenir leurs biens. La promesse de 2017 sera-t-elle tenue? Le président Macron et le gouvernement veulent convaincre qu'ils réformeront jusqu'à la fin du quinquennat, même dans les domaines les plus sensibles. En cet automne 2019, l'immigration, sujet de prédilection de Marine Le Pen, l'adversaire numéro 1, est à l'agenda. Une série de mesures doit être annoncée demain après le Conseil des ministres. On en connaît déjà l'essentiel. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Premier point avec vous Laurent, l'immigration économique. Elle représente, hein, il faut le dire, une petite part de l'immigration globale, 13%, 33 000 personnes seulement l'année dernière. Alors quelle réforme? Au gouvernement, on parle de quotas avec un objectif qu'il n'y ait plus ou moins d'emplois non pourvus. Ces entreprises qui cherchent à embaucher, qui ne trouvent pas en France, qui galèrent même pour recruter de la main-d'œuvre étrangère. Alors d'abord Laurent, le constat, combien d'emplois non pourvus?
Alors 330 000 emplois seraient aujourd'hui en souffrance selon Pôle emploi. Cela reste une projection des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur faute de candidats. Car la question en réalité de l'attractivité de ces métiers est posée par exemple dans le secteur médico-social.
Et il est difficile de faire venir des gens.
Alors la liste des critères qui autorisent aujourd'hui un titre de séjour pour motif économique n'est en réalité plus d'actualité, souligne le gouvernement. 33 000 personnes ont été autorisées, certes, à venir travailler, mais sans que l'on puisse établir si leur métier était réellement en tension. D'autres candidats, à l'inverse, se sont vus refuser un titre de séjour alors que leurs compétences étaient recherchées en France.
Donc il existe bel et bien une liste des métiers en tension?
Elle date de 2008 et n'a jamais été pertinente, souligne Matignon. La ministre du Travail va donc réunir les branches professionnelles, les fédérations, les partenaires sociaux, les régions, pour tout remettre à plat, mettre sur pied un véritable outil statistique. Quel métier est aujourd'hui réellement recherché et à quel horizon? Outil statistique qui n'existe pas en réalité aujourd'hui.
Alors à propos de cette réforme, on a entendu parler de quotas ce matin. La réforme, ce serait donc d'abord une mise à jour de cette fameuse liste. On ne fait au fond qu'actualiser un système qui existe déjà.
Cette liste des métier qui permettra de venir travailler en France doit devenir pertinente et surtout dynamique, car elle sera revue chaque année. C'est toute la difficulté de créer un outil statistique pour ouvrir et refermer les vannes sur les métiers en tension.
Et quels sont les métiers en tension aujourd'hui?
Alors les besoins en main-d'œuvre non pourvus ciblent aujourd'hui la restauration, évidemment, le nettoyage, les aides-soignants, on l'a dit, les aides à domicile, le BTP, les ouvriers manutentionnaires, des métiers peu qualifiés parfois, mais le gouvernement cible également des métiers ultra qualifiés qui seront indispensables dans les 10 années qui viennent, notamment dans l'intelligence artificielle ou les algorithmes.
Alors, quand on parle d'objectifs chiffrés, puisque c'est ce que dit le gouvernement, on parle d'une limite haute ou basse. Par exemple, quand on dit 10 000 carrossiers, mettons, c'est maximum, c'est minimum. Est-ce que dans ces métiers en tension, les portes seront grandes ouvertes?
Alors, il n'y aura pas de quota rigide, insiste le gouvernement, mais seulement des objectifs qui seront donc revus chaque année, débattus au Parlement. Il n'y aura pas de décompte ou de guichet fermé, mais le candidat devra justifier d'un contrat de travail de plus de 3 mois pour obtenir une carte de séjour pour motif économique. L'objectif du gouvernement n'est pas non plus de démultiplier le nombre de titres de séjour accordés aujourd'hui, mais de les rendre en phase avec les attentes des employeurs.
Dernière question, si on facilite l'accès à certains métiers, est-ce que cela veut dire que pour les autres métiers, pas en tension, les portes vont se fermer?
Alors c'est le risque, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est toute la politique des quotas économiques, mais pour le gouvernement, l'enjeu de cette réforme est de ne pas laisser filer cette croissance économique faute de main-d'œuvre aujourd'hui disponible. Pour faire tourner aujourd'hui les entreprises. Les qualifications recherchées sont aujourd'hui très larges. Cela concerne aussi des métiers qualifiés dans l'électronique, les dessinateurs industriels, l'informatique. Tout l'enjeu de cette réforme est donc de très bien paramétrer au plus près des réalités pour permettre à l'économie française de tourner véritablement à plein régime.
Des objectifs chiffrés donc pour l'immigration économique et pour les demandeurs d'asile et sans papier, des mesures pour mettre fin à ce qui est considéré comme des abus. Les demandeurs d'asile ne pourraient pas accéder à la protection universelle maladie, la sécu de base, avant un délai de carence de 3 mois après leur arrivée. Pour les sans-papiers, il faudrait l'accord de la sécurité sociale pour obtenir certains soins jugés pas urgents dans le cadre de l'aide médicale d'État. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, était ce matin l'invité de France Inter. Voici ce qu'il en dit.
C'est choquant pour le coup. Je vous le dis, c'est choquant parce que, vous savez, la possibilité d'avoir accès à des soins pour les demandeurs d'asile via le dispositif PUMA ou l'AME, c'est deux raisons. C'est d'abord une raison d'humanité, peut-être pas qu'on perde ça de vue, et deuxièmement, c'est une raison de santé publique. On aura bonne mine quand on aura mis un délai de carence, qu'une personne sera porteuse d'une maladie et qu'elle aura pendant 3 mois développé cette maladie encore un peu plus et transmis cette maladie. Donc il faut arrêter. Vous savez, l'AME, c'est 0,5% du budget de la santé.
C'est 1 milliard par an, hein,
oui,
pour 300 000 personnes.
Oui, mais 0,5%. Donc au bout d'un moment, et c'est un double devoir. C'est un devoir de santé publique et c'est un devoir d'humanité. Et donc, je le dis, ça sert à montrer qu'on fait quelque chose sur ce sujet-là, mais ça va avoir des conséquences désastreuses.
Alors, sur ce sujet de l'immigration, le gouvernement risque de prendre des coups des deux côtés, suspecté de vouloir faire les poches de Marine Le Pen par la gauche et même une partie de la majorité, accusé de pas aller assez loin par la droite et l'extrême droite. Au total, Yael Goz, avec les mesures qui se dessinent, qu'on vient de présenter, qui doivent encore être confirmées demain, sur le balancier entre laxisme et fermeté, Yael, où en est-on?
Eh bien, on est à l'équilibre. Sur les 20 mesures, c'est du 50-50, c'est ce que répond Matignon. Non, ce n'est pas un grand soir, confirme soulagé un député de la majorité, hostile au départ à l'ouverture d'un tel débat. Prenons le volet santé. Agnès Buzyn a fait de la résistance et finalement, c'est essentiellement une chasse aux abus, mais l'aide médicale d'État est sanctuarisée. Car depuis la loi Collomb, Édouard Philippe sait que la majorité est hypersensible sur ces sujets. Alors il ne la braque pas, il dose entre humanité et fermeté, comme sur l'aide au développement. Côté pile, elle augmente. Côté face, à condition que les pays qui la touchent renforcent leur contrôle. La grande nouveauté, c'est évidemment, Bruno, l'immigration de travail avec ses quotas annuels. Difficile pour la droite de s'y opposer, puisqu'une circulaire de 2008 sous Nicolas Sarkozy, jamais appliquée, en parlait déjà. Un mois après le débat sur l'immigration à l'Assemblée, le sentiment qui domine, c'est celui d'un atterrissage en douceur, qui contraste avec la dureté des mots. Reste la question qui fâche, l'effectivité des reconduites à la frontière pour les îles. Emmanuel Macron, dans Valeurs Actuelles, a mis la barre très haut et promis 100%. Droite et extrême droite l'attendent au tournant.
Et le Conseil des ministres consacré à ce sujet, c'est donc demain. Tout autre sujet, mais c'est aussi un des titres de la matinée. Le prix Femina qui vient d'être décerné. Bonjour Ilana Mouyoussef.
Bonjour Bruno.
Vous êtes au Cercle Interallié où les dames du Femina étaient réunies et elles ont sacré Sylvain Prudhomme pour son livre chez Gallimard, Par les routes.
Oui, c'est un jeune auteur d'une quarantaine d'années, jeune mais avec une œuvre forte déjà. Et ce « Par les routes », qui est un splendide roman, est un roman sur l'amitié, sur les choix que l'on fait, sur le fait d'être ou non à la juste place. Un livre, pour résumer rapidement, sur la liberté intérieure, avec trois personnages centraux. Sacha, un écrivain, son ancien meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, l'autostoppeur, et la compagne de celui-ci. Le prix Femina étranger est attribué à l'espagnol Manuel Vilas pour Ordessa, une évocation de ses parents disparus et de la classe moyenne pauvre espagnole sous le franquisme. Un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre est attribué à la romancière irlandaise Edna O'Brien qui publie cette année Girl. C'est l'histoire d'une jeune Nigériane enlevée par Boko Haram. Et enfin, le prix Femina de l'essai va à Emmanuel Lambert pour Giono Furioso.
Eh bien voilà, nous avons la liste complète. Merci Ilana Mouyoussef en direct du Cercle Interallié avec les moyens techniques de Nicolas Mathias.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Ce n'est pas une surprise, mais c'est tout de même un fait marquant de l'actualité aujourd'hui. Les États-Unis ont fait un pas de plus vers leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. Alors c'est une démarche avant tout juridique, technique. Les États-Unis de Trump ont confirmé la nuit dernière devant l'ONU leur intention de revenir sur la signature d'Obama. Sauf revirement, ils quitteront effectivement cet accord sur le climat dans un an. Bonjour Arnaud Gosseman.
Bonjour.
Avocat spécialiste des questions d'environnement. Qu'est-ce que ça change ?
Alors très concrètement, aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose puisque les États-Unis restent partis à l'accord de Paris encore pendant un an jusqu'au 4 novembre 2020, c'est-à-dire jusqu'au lendemain de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 3 novembre 2020. Non seulement ils restent encore pendant un an partis membres de l'accord de Paris, mais il faut bien préciser qu'ils ont l'intention de dénoncer cet accord de Paris, mais pas la convention cadre sur le climat qui, elle, avait été ratifiée en 1992 et à l'intérieur de laquelle se situe cet accord de Paris qui avait été ratifié à Paris lors de la COP21.
Alors certains misent sur le fait que peut-être les démocrates passeront l'année prochaine et qu'ils reviendront sur les intentions de Trump. Je voudrais vous poser la question d'une autre manière. Si Trump passe et que donc il confirme son intention, qu'est-ce que ça changera? Là, cette fois, le retrait sera effectif. Il risque d'y avoir un effet domino à ce moment-là?
Alors l'effet domino, je ne pense pas. Je ne pense pas que d'autres États, à la suite des États-Unis, dénoncent l'accord de Paris et en sortent. Le gros risque, c'est que les États qui sont déjà signataires de cet accord de Paris baissent la garde, c'est-à-dire en fassent moins au prétexte que les États-Unis, oui, qui sont l'un des plus grands pollueurs de la planète, eux-mêmes en font moins. Mais attention, c'est la décision du président d'un État fédéral, Donald Trump. Oui. Ça n'engage pas tous les États fédérés. Et on pense notamment à toutes ces villes, tous ces États qui, déjà depuis ce matin, s'expriment pour dire que eux souhaitent continuer à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre.
Alors Arnaud Gossement, c'est à Pékin où il est en voyage en Chine, en tout cas qu'Emmanuel Macron a pris acte du retrait américain. Et le président français appelle à une nouvelle mobilisation pour le climat qui passe, nous allons l'écouter, par une alliance entre Europe et Chine.
Si nous voulons être dans le respect de l'accord de Paris, il nous faudra l'année prochaine rehausser nos engagements en matière de réduction d'émissions. Et la coopération à ce titre entre la Chine et l'Union européenne est décisive. La place que la Chine, le gouvernement, l'ensemble des provinces, l'ensemble des investisseurs et des entreprises ont joué a été décisive ces deux dernières années.
Quel rôle joue la Chine, Arnaud Gossement, pour consolider, disons, cet accord de Paris?
C'est un rôle absolument fondamental, bien entendu. Il faut savoir que, à côté des négociations internationales sous l'égide de l'ONU, il y a tout un ensemble de conventions bilatérales entre grandes puissances et qui, elles aussi, ont pour but de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Le risque que prennent les États-Unis aujourd'hui, c'est de n'être plus un grand acteur de cette diplomatie du climat. Et d'ailleurs, dans le communiqué qui a été publié par la Maison Blanche, par Mike Pompeo plus précisément, ils prennent soin de préciser que les États-Unis ont à cœur de rester partis aux négociations internationales sur le climat. Je pense qu'ils ont eux-mêmes conscience qu'en sortant de l'accord de Paris, ils risquent de devenir un acteur mineur de ces négociations internationales, voire même de ne plus peser sur leur destinée, contrairement à ce qu'ils espéraient jusqu'à présent. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Et effectivement, si on regarde le verre à moitié plein, ça va permettre à d'autres puissances, on l'espère pour l'Europe, qui n'a pas toujours été leader en matière de négociations climat, et pour la Chine aussi, de prendre ce leadership que les États-Unis bêtement abandonnent à d'autres puissances aujourd'hui.
Et l'hypothèse d'un front Europe-Chine qui serait uni dans les négociations, c'est quelque chose qui a un début de réalité?
Alors ce sont deux pays qui ont des visions quand même assez différentes, oui, de la manière de gérer le climat et la réponse au changement climatique. Il ne faut pas penser que seules ces deux puissances-là pourront permettre au monde d'avancer. Il faut bien sûr compter avec l'ensemble des autres puissances et pas simplement avec la Chine. Mais oui, ce front, quelque part, coïncidence de l'histoire, au moment même où Donald Trump prend cette décision de sortir de l'accord de Paris, cette rencontre Chine-France permet effectivement de construire, de consolider ce front entre l'Europe et la Chine, et ça c'est une excellente nouvelle.
Merci Arnaud Gossement d'avoir répondu à nos questions après donc cette nouvelle démarche des États-Unis qui font un pas de plus vers leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. Dans la liste des pays où la contestation populaire s'installe, à l'Algérie, au Chili, au Liban, il faut ajouter la Guinée en Afrique de l'Ouest. Ce qui a déclenché la crise, c'est la volonté du président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses deux mandats. Depuis plusieurs semaines, manifestations, répression, une quinzaine de personnes ont perdu la vie. Et hier, alors que les familles de victimes voulaient inhumer leurs proches, de nouveaux affrontements ont éclaté. Reportage à Conakry du correspondant de Radio France Internationale, Carole Valade.
Plusieurs milliers de personnes accompagnent le cortège funèbre. Les militants du Front National de Défense de la Constitution, qui regroupe opposition politique et société civile contre un troisième mandat du président Condé, sont aux côtés des familles des victimes. Bobo Mamadou Barry.
Le 14 et le 15, deux de mes frères ont été assassinés à bout portant. Ce n'étaient pas des manifestants, c'était des gens qui étaient dans leur maison. Je ne peux pas demander justice parce que je sais que justice ne sera pas faite en République de Guinée.
proximité de la mosquée, les premières grenades lacrymogènes éclatent, les jeunes répliquent par des jets de pierre, les canons à eau entrent en action. Sidya Touré, président de l'UFR, troisième force politique du pays.
Nous venons crier notre colère par le fait que les Guinéens doivent avoir le droit de pouvoir s'exprimer sans être froidement abattus. Donc il y avait une volonté délibérée de tuer des gens, de les effrayer, de mettre une chape de plomb sur la Guinée.
Pendant la prière, l'étau se resserre autour du lieu de culte, mais les manifestants parviennent à sortir les cercueils, chacun recouvert d'un drapeau guinéen. On entend des coups de feu, gendarmes et policiers rentrent dans les quartiers, armés de frondes et de pierres, parfois d'armes à feu, selon deux témoins. Les affrontements se poursuivaient encore en fin d'après-midi. Conakry, Carole Valade, France Inter.
En Italie, les années et les gouvernements passent, mais le Mezzogiorno, le sud, reste nettement plus pauvre que le reste du pays et que le reste de la plupart des régions européennes. D'ailleurs, un nouveau rapport donne des chiffres. Le sud de l'Italie a perdu 2 millions d'habitants depuis l'an 2000, beaucoup de diplômés. Et la richesse dans la région risque de chuter encore de 40% dans les décennies à venir. Dans ce contexte, ces derniers mois, l'histoire d'une usine est au cœur de l'actualité. L'acierie de Tarente dans les Pouilles, la plus grande acierie d'Europe. Le groupe Arcelor renonce à la racheter. Ses dirigeants sont convoqués par le Premier ministre. France Inter à Rome, Bruce de Galzin.
L'acierie Ilva emploie 8200 personnes à Tarente, où le chômage est déjà deux fois plus élevé que la moyenne nationale. C'est donc une bombe sociale que cherchent à désamorcer les syndicats et le gouvernement, sur qui pourtant beaucoup rejettent la faute. Et en premier lieu, Mittal, le numéro un de l'acier, racheté Ilva il y a un an en promettant des investissements industriels, mais aussi environnementaux, car l'acierie est l'un des sites les plus pollués d'Europe. Un procès est même en cours, car les décès liés à des maladies respiratoires ou des cancers sont anormalement élevés à proximité du site pollué. ArcelorMittal avait pris les devants en réclamant une immunité pénale en matière d'environnement. Une immunité que le gouvernement a finalement supprimée. Arcelor a donc décidé de renoncer au rachat, comme le prévoyait le contrat, assure l'entreprise, et qui perd aussi 2 millions d'euros chaque jour. Le gouvernement assure lui que l'acierie ne fermera pas, mais son premier opposant, Matteo Salvini, demande à Giuseppe Conte de s'expliquer devant le Parlement et de démissionner si des emplois sont supprimés. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
L'actualité de votre vie quotidienne, combien de personnes pratiquent le télétravail? Quel impact? Une nouvelle étude se penche sur le sujet, c'est à lire sur franceinter.fr. Dans un peu plus de deux minutes, vous serez convaincu que les lentilles sont ce qu'il y a de plus sexy au monde. Votre chronique santé, Daniel Messager, chaque mardi dans ce journal de 13h. Et l'INRA, l'Institut de la Recherche Agronomie, qui organise un colloque consacré aux protéines végétales. Alors derrière, c'est intitulé, Daniel, intitulé un peu obscur. Il y a une question qui nous concerne tous, comment, à table, prendre soin à la fois de notre santé et de l'environnement.
Évidemment que c'est notre souhait à tous de se maintenir en bonne forme tout en préservant la planète. Et pour cela, le salut viendra peut-être des protéines végétales, c'est-à-dire les légumineuses, lentilles, pois cassés, haricots rouges. Mais ils n'ont pas une bonne image de marque. C'est de la seconde main alimentaire dans l'esprit du consommateur.
C'est ce qu'ont constaté les chercheurs. Hein.
Alors Sandrine Monnery-Patrice est chercheure INRA au Centre de l'alimentation et des goûts à Dijon. Alors à ce petit jeu des associations, vous savez, et si c'était, oui. Eh bien il y a d'énormes différences entre les produits rois, et c'est encore la viande, et les légumineuses.
Dans le portrait chinois, lorsqu'on leur demandait si la viande était, par exemple, une personne, quel serait son âge, sa profession, ça serait plutôt un homme qui exercerait le métier de bûcheron, qui aurait environ 30 ans. Alors que si on compare avec le portrait chinois obtenu pour les légumes secs, la lentille par exemple, là on a au contraire le portrait d'une femme plutôt jeune qui exerce des métiers dans le tourisme ou dans le domaine de l'esthétisme. En fait, ce que l'on voit, c'est que les protéines végétales, ça reste des aliments qui s'opposent aux légumes frais par exemple. Ce sont des légumes secs, quelque chose qui est périmé. Et c'est pas une image très finalement reluisante. Ça fait vraiment penser à un aliment qui est un petit peu has-been. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont des aliments qui sont des accompagnements. Ce ne sont pas des piliers en tant que tels, comme la viande qui vraiment constitue le pilier de l'assiette. La lentille, c'est vraiment un aliment périphérique.
Alors, réhabilitons la lentille. Il faut dire que c'est bon pour la santé. Hein,
alors, il faut le dire, ouais. Parce que c'est vrai. Mais il faut aussi utiliser d'autres arguments.
C'est un message important, mais il ne faut pas travailler que là-dessus. Il faut parler des différentes variétés, des différentes recettes, des différents modes de préparation, la spécificité des goûts, l'originalité. Il faut stimuler l'appétence, l'envie, la curiosité. Il y a une très grande variété de lentilles. Par exemple, là, j'ai découvert récemment la lentille de Bourgogne. Une lentille plutôt blonde, délicieuse, qui mérite vraiment d'être à la table des grands chefs. Hein. Ça serait dommage quand même de s'en priver, parce que c'est source de plaisir. Et pour le mangeur français, le plaisir reste un déterminant crucial de ses choix et de ses consommations. Et en plus, il y a une plus-value pour l'environnement, donc ça serait dommage quand même de se priver de ces aliments.
Alors, vous avez entendu Bruno, qui procure aussi du plaisir, ça c'est important. Vous savez donc ce qu'il faut cuisiner à vos enfants ce soir. Invitez les protéines végétales à sa table.
Et les lentilles blondes, merci Daniel Messager. Eux ont certainement embarqué de la nourriture lyophilisée à bord de leur monstre des mers. Une nouvelle course à la voile, la Brest Atlantique, a commencé ce matin au large de Brest, comme son nom l'indique. C'est aussi là que les concurrents reviendront dans un mois, selon les prévisions, après avoir franchi deux points de passage, Rio de Janeiro et le Cap en Afrique du Sud. Particularité de cette course, elle met aux prises quatre voiliers seulement, mais des géants, les ultimes, ces multicoques énormes qui volent quasiment sur l'eau avec leurs foils. Ils ont profité d'une fenêtre météo pour s'élancer ce matin. Sacré spectacle, Morgane Euclin refait.
Jumelles à la main, André scrute les bateaux qui s'éloignent.
Sur les quatre, on en a vu deux qui sont passés devant nous. Là, c'est vraiment impressionnant parce que vu les dimensions qu'il a, c'est vraiment des belles de course. Quoi. C'est superbe.
Et il ne fallait pas les louper. François et Sylvie sont arrivés pile à l'heure.
C'est rapide, mais en même temps, ce matin, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne sur les quais, pratiquement.
Se passer en 10 minutes, là, c'est sympa, c'est un peu émouvant, les applaudissements. Ah ben voilà, ils mettent les voiles là-bas.
Sur la digue, ce sont aussi des voileux qui profitent du spectacle. Pierre-Yves, qui travaille sur le port, s'est levé plus tôt.
Ce sont des sacrés engins, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. On navigue ici en rade de Brest sur des petites unités. Quand on voit des engins de course comme ça, c'est vraiment exceptionnel.
De l'émerveillement donc, mais aussi un côté supporter chez certains fans. Les navigateurs en auront besoin.
Je pense que pour eux aussi, c'est important qu'on soit là. Ce que j'aime, c'est l'émotion qu'il peut y avoir.
Le départ d'une compétition, il y a un côté émotion, et puis c'est une aventure, comme partir sur l'eau, même avec des gros bateaux comme ça.
Surtout sur un trajet inédit à travers les Atlantiques, avant de rentrer à Brest.
Puis on les revoit dans un mois à peu près.
Vous serez là à l'arrivée ?
Ah oui, bien sûr.
Alors non seulement les bateaux sont impressionnants, mais en plus ils sont pilotés par des cadors, quatre duos, François Gabart et Gwenole Gaïné, Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, Franck Camas et Charles Caudrelier, Yves Le Blévec et Alex Pella. Alors question tout de même sur la pertinence de cette course, en même temps que la Transat Jacques Vabre, et alors que les mêmes bateaux ultimes avaient cassé les uns après les autres sur la dernière route du Rhum, c'est un nouveau test, pas un rattrapage, assure Emmanuel Bachelry, le directeur de la course.
Ça n'est pas une redite de la route du Rhum pour la raison très simple, c'est qu'une route du Rhum c'est 3500 milles nautiques et Brest Atlantique c'est 14 000 milles. Donc la particularité d'un parcours très long avec des embûches météo très nombreuses puisqu'on a deux anticyclones à contourner, au nord l'anticyclone des Açores, au sud celui de Sainte-Hélène et deux fois le poteau noir qui est cette fameuse zone de convergence anticyclonique qui borde l'équateur, où il y a des vents très erratiques, avec des gros coups de vent, des zones de calme, des gros orages, on aura pas mal de passages à niveau. Donc c'est un demi-tour du monde.
Et dans la Transat Jacques Vabre, tout de même, le classement toujours avantage à Jérémy Bayou et Christopher Pratt sur Charal. Ils sont devant Charlie Dalin et Yann Eliès sur Apivia. Un mot de football, nouvelle journée de Ligue des Champions ce soir. La Coupe d'Europe, c'est la quatrième journée. L'Olympique Lyonnais reçoit Benfica et Lille joue à Valence.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Ensuite, près la situation dans le Pas-de-Calais. La météo, Sébastien Léas.
Le temps reste très agité cet après-midi de la Nouvelle-Aquitaine au Midi Toulousain jusqu'au Maine-et-Loire, au Centre-Val de Loire et à l'Ouest Auvergne avec des averses régulières, des orages, de fortes rafales de vent et localement du grésil. Sur l'ouest des Pyrénées, les averses sont neigeuses au-dessus de 1400 mètres d'altitude. L'ouest de la Corse est également concerné par des orages et de fréquentes averses sont aussi attendues entre les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Basse-Normandie. Sur le reste du pays, les nuages sont prédominants et lâchent parfois des averses, mais ces averses sont moins généralisées et circulent assez rapidement. La Provence-Alpes-Côte d'Azur bénéficie d'éclaircies plus franches avec un soleil plus généreux près des plages. Les températures maximales sont globalement de saison cet après-midi. Il fait 12 degrés à Caen, Lille, Metz et Besançon, 13 degrés à Paris, Brest et Nantes, 14 degrés à Lyon et Bordeaux et 17 degrés à Perpignan et Marseille alors que le mercure atteint 23 degrés à Bastia.